Chapitre 5. Ce chapitre s'ouvre sur un incident solennel qui met en évidence un dernier trait caractéristique de l'Église primitive, la puissance de Dieu y exerçait une sainte discipline. Sans aucun doute, le cas d'Ananias et de Saphira est exceptionnel. Lorsque Dieu institue quelque chose de nouveau, il semble qu'il prend soin de signaler sa sainteté en faisant un exemple de ceux qui la défient. Il l'a fait à l'égard de l'homme qui, dans le désert, n'a pas gardé le sabbat. Voir Nombre 15, versets 32 à 36. Comme à l'égard d'Acan, lorsque Israël commençait à entrer dans le pays de Canaan. Voir Josué 7, versets 18 à 26. Il le fait ici à l'égard d'Ananias et de sa femme. Plus tard, dans l'histoire d'Israël, plusieurs ont violé le sabbat, et plusieurs ont pris des biens interdits de Babylone, sans subir pareil châtiment. Et dans le cours de l'histoire de l'Église, beaucoup ont agi avec dissimulation et ont menti sans être frappés de mort. Dans ce cas, deux choses mauvaises, très proches, la convoitise et la vanité, se cachaient derrière le mensonge. Ananias voulait garder pour lui une partie de l'argent, tout en se donnant la réputation d'avoir consacré au Seigneur la somme entière, comme Barnabas l'avait fait. Telle est la pensée de la chair, même chez un saint. Combien d'entre nous n'ont jamais connu dans leur cœur les tentations coupables de ce genre? Dans ce cas, toutefois, Satan était à l'œuvre, et, par ce malheureux couple, il lance un défi direct au Saint-Esprit présent dans l'Église. Le Saint-Esprit relève le défi et manifeste sa présence de cette façon énergique et évidente. Pierre le discerne lorsqu'il dit à Saphira : Comment êtes-vous convenu entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Ainsi, le défi de Satan n'a fait que servir les intérêts du Seigneur et de son évangile. Les versets qui suivent le montrent. En premier lieu, cet incident provoque une grande crainte chez tous ceux qui en entendent parler, et même dans toute l'assemblée. Nous avons ici un élément qui fait grandement défaut dans l'Église aujourd'hui, pour ne rien dire des hommes en général. La crainte de Dieu dans le cœur des saints est une chose très salutaire. Et elle est tout à fait compatible avec le sentiment profond de l'amour de Dieu. Paul avait cette crainte dans la lumière du tribunal du Christ, voir 2 Corinthiens 5, versets 10 et 11. Mais pour l'incrédule, il ne s'agira pas de crainte, ce sera une terreur positive. Une sainte crainte, venant d'un sentiment profond de la sainteté de Dieu, est très souhaitable. Puis, comme l'indique le début du verset 12 et les versets 15 et 16, la puissance miraculeuse de Dieu, exercée par l'intermédiaire des apôtres, n'en est pas diminuée. Au contraire, elle est accrue, puisque la simple ombre de Pierre opère des miracles. La parenthèse des versets 12 à 14 permet de constater qu'après cet incident, on avait de la crainte à se joindre à la compagnie des croyants. Ce n'était cependant pas réellement une perte, car cela arrêtait tout ce qui n'aurait été qu'un mouvement de masse et qui aurait introduit de la fausseté dans l'Église. Le verset 14 montre que la véritable œuvre de Dieu n'a pas été entravée. De simples professants peuvent être ajoutés à l'Église, mais seuls sont ajoutés au Seigneur ceux en qui une œuvre de Dieu s'est opérée pour la vie. Ainsi, la triste affaire d'Ananias et de Saphira a tourné au bien de l'Église, même si, pour l'observateur superficiel, elle peut sembler être un coup dur porté à son avenir. Après cette intervention particulière de Dieu en bénédiction, nous voyons au verset 17 Satan reprendre l'offensive. Les sacrificateurs et les sadducéens, remplis de jalousie, arrêtent de nouveau les apôtres. Dieu répond en envoyant un ange ouvrir les portes de la prison et libérer ses serviteurs. Le lendemain, lorsque leur fuite est découverte, ils sont une nouvelle fois arrêtés, mais sans violence. Par leurs paroles, les sacrificateurs reconnaissent la puissance de Dieu qui s'est exercée et admettent que Jérusalem a été remplie de l'enseignement des apôtres. Mais ils manifestent la dureté de leur cœur en déclarant « Vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme ?» Ils avaient pourtant dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » En fait, Dieu allait les prendre au mot et a mené ce sang sur eux. La réponse de Pierre est brève et simple. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis, une fois encore, ils résument pour eux leur témoignage et le répètent. L'Esprit Saint et eux-mêmes étaient témoins de la résurrection de Jésus qu'ils avaient, eux, mis à mort. Mais Dieu l'avait exalté, non pas pour être en ce moment le juge qui ferait tomber sur leur tête coupable la condamnation, mais comme prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. La repentance, aussi bien que le pardon, est considérée comme un don. Quoique la grâce et le pardon soient encore le contenu du message de Pierre, les Juifs sont remplis de rage. La grâce suppose le péché et la culpabilité, ce qu'ils n'étaient pas disposés à admettre. Aussi tiennent-ils conseil pour les faire mourir. Satan est meurtrier dès le commencement, et sous son influence, leurs cœurs sont remplis de pensées de meurtre. Mais Dieu a de nombreux moyens de contrecarrer les mauvais desseins des hommes, et, dans ce cas, il se sert de la sagesse mondaine du célèbre Gamaliel, celui qui a eu pour disciple Saul de Tarse. Gamaliel cite deux cas récents d'hommes qui s'étaient levés, se disant être quelque chose, le genre de personnes auxquelles le Seigneur fait allusion en Jean 10, lorsqu'il parle de ceux qui montent par ailleurs et qui sont des voleurs et des larrons. Ces hommes ont tous péri, et Gamaliel aimait la pensée que si Jésus avait été l'un de ces faux bergers, et non pas le vrai berger d'Israël, son dessein aurait aussi été réduit à néant. L'avertissement de Gamaliel est entendu et les apôtres sont relâchés, mais non sans avoir été battus et avoir reçu l'ordre de mettre fin à leur témoignage. Le Sanhédrin se mettait à faire la guerre à Dieu. Les apôtres se réjouissent d'avoir été estimés dignes de souffrir pour le nom, et ils continuent à rendre témoignage avec zèle, tant en public, dans le temple, que d'une manière plus privée, de maison en maison.